La main verte d'Alain Baraton, le jardinier de Versailles. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Avec une citation pour commencer, celle de Confucius, qui cueille des fleurs, en respire le parfum.
Mais encore faut-il garder les yeux ouverts quand on fait le bouquet. Pour ne pas être induit en erreur, certaines plantes produisent en des senteurs pour le moins originales.
Alors, quelques exemples peut-être?
L'Artemisia abrotanum, ou armoise citronnelle. Elle est une plante vivace bien installée sur le pourtour méditerranéen. Il en existe une grande diversité, comme la variété Cola, appelée ainsi pour l'odeur dégagée par l'extrémité de ses branches. Elle sent, à s'y tromper, le Coca-Cola. La germandrée tomenteuse, elle aussi, dégage de drôles de senteurs. Comme l'armoise, elle se plaît près de la Méditerranée et quand on approche son nez, on a du mal à le croire. On n'est pas dans un jardin, pas davantage chez un parfumeur, mais chez un charcutier. Ses feuilles sentent tellement le saucisson qu'il est même conseillé de l'utiliser en cuisine.
Et des fleurs qui sentent aussi les fruits de mer en bouche.
Bon oui, sans aucun doute. Avez-vous déjà goûté la mertensie maritime?
Oui, c'est à s'y méprendre, l'huître.
Oh, c'est carrément de la numéro 3 de l'Héron.
C'est
absolument incroyable. Alors, j'en profite également pour évoquer une plante qui offre de très belles fleurs et qui diffuse, là encore, un drôle de parfum. Je veux parler du Cosmos atrosanguineus, plus connu comme Cosmos chocolat. La plante produit des tubercules comme des dahlias et atteint en moyenne 50 cm. Ses fleurs sont rouge sombre et sentent vraiment, mais vraiment, le chocolat.
Et cette plante, Cosmos chocolat, donc d'où vient-elle et est-ce qu'il est possible de s'en procurer en France?
Alors, elle est originaire du Mexique et cette variété a bien failli disparaître tant elle fut exploitée pour ses supposées propriétés médicinales. Les feuilles, les fleurs et les racines seraient efficaces pour soigner les maladies respiratoires. Depuis 1902, il n'a plus jamais été vu un seul exemplaire dans la nature, mais c'est heureux, il en a été conservé un dans le jardin botanique de Kew's Garden, vous apprécierez mon anglais au passage, je fais les progrès considérables, en Angleterre. C'est ce pied qui a longtemps donné naissance à tous les cosmos chocolat au monde, et il est aujourd'hui possible de s'en procurer sans trop de difficultés, mais je vous assure que les plantes que je viens de citer, approchez-vous, sentez-les, elles sentent vraiment bizarrement, c'est un plaisir.
Elles sont comestibles?
Alors certaines le sont, d'autres ne le sont pas, mais la mertensie par exemple...
La mertensie, c'est en bouche qu'elle sent l'huître, pas tellement au nez, c'est
non,
en bouche.
C'est en bouche, mais c'est absolument incroyable, on a vraiment l'impression de s'offrir un plateau de fruits de mer.
Exactement.
Et le drame de cette plante, c'est qu'elle est tellement connue pour ce goût, qu'elle malheureusement elle a tendance à disparaître de la nature, tant elle est là encore cueillie.
À présent, Alain Baraton, vos conseils, vos réponses aux auditrices et auditeurs de France Inter qui nous ont écrit sur franceinter.fr. Michel, par exemple, voudrait vous poser des questions sur ces lauriers en fleurs. Que planter à l'ombre des lauriers en fleurs?
Pas grand-chose, parce que on pense toujours à la lumière. Mais il n'y a pas que le soleil qui donne de la vie à une plante. Il y a également l'eau qu'elle doit puiser dans le sol. Quand vous avez des vieux lauriers qui sont installés, que se passe-t-il? Eh bien, les racines tapissent le sol et il est impossible ou difficile pour la plante plantée à proximité de pouvoir se nourrir correctement. Alors, problème de luminosité, problème d'eau, donc à proximité, non, on garde toujours quelques distances pour être sûr d'avoir des plantes heureuses. Et une plante heureuse est une plante qui fleurit.
Eh bien justement, deuxième question à propos des lauriers, toujours de Michel. Puis-je utiliser les feuilles de laurier pour pailler ou alors dans le composteur, malgré leur toxicité?
Les plantes sont extraordinaires. Quand on sait qu'aujourd'hui, il est possible de purifier de l'eau polluée grâce aux plantes, quand on sait à quel point les plantes sont capables d'absorber l'air que nous le respirons, souvent un air qui est parfois vicié, et de restituer un oxygène pur et magnifiquement, j'allais dire, assimilable. Donc oui, il est parfaitement possible de mettre quantité de plantes, pas seulement les plantes comme le laurier un peu toxique, mais toutes les autres sur le tas de compost, il n'y a aucun souci, la dangerosité ne se communique pas pour le compost.
Esmeralda vous demande comment faire blanchir les pissenlits. Ça veut dire quoi,
blanchir les pissenlits? Patricia pourrait certainement répondre. Les pissenlits sont des salades qui sont vraiment nettement meilleures lorsqu'elles sont blanches. Et si elles sont blanches, c'est qu'elles sont privées de lumière. Les vrais jardiniers, ceux qui ont des potagers merveilleux, vont prendre l'habitude de ficeler les feuilles, les replier sur elles-mêmes pour éviter justement que le soleil ne vienne les verdir. Le vert étant la chlorophylle. Il y a une technique beaucoup plus simple.
On peut les passer, les mettre dans l'eau bouillante un instant?
Ah non. non, ça ne fera pas blanchir.
Pas non, parce qu'on dit aussi que ça blanchit.
Oui, ça blanchit, mais ça blanchit
en cuisine.
En termes de cuisine, tout à fait. Non, le bon vieux pot, vous avez votre pissenlit, vous mettez un pot par-dessus, vous le retournez, ça le prive de la lumière et en quelques journées quand même, elles vont blanchir, devenir craquantes, vous rajoutez quelques lardons, vous servez et vous dégustez.
Mounia voudrait une astuce pour conserver ses pélargoniums jusqu'à l'année prochaine. Ça va bientôt venir l'année prochaine.
Oui, il faut déjà bien éviter de trop les arroser en automne et en hiver. La plante n'a plus besoin d'autant d'eau. Il faut bien évidemment la placer de manière à ce que les courants d'air très froids ne viennent pas nuire à la santé du végétal. Prévoir à proximité des cartons, des vieux plastiques, voire des toiles en polypropylène, c'est quand même ce qu'on appelle les voiles d'hivernage, pour simplement les mettre sur les branchages si le froid était annoncé. Mais soyons honnêtes, au nord de la Loire, il est parfois possible, si la plante est bien exposée, de conserver d'une année sur l'autre les pélargoniums. Au sud de la Loire, c'est beaucoup plus facile. Mais vouloir garder ces géraniums quand on habite dans des régions où le froid est extrême, ne rêvons pas. C'est la raison pour laquelle il y a des plantes dites annuelles qui meurent avec l'arrivée du froid.
Jeanne a un poirier Angélis. Les fruits, dit-elle, les fruits de mon poirier sont infestés par le Carpocaps.
Ah oui.
Cela fait 2 années que je le traite, ce poirier, avec des produits achetés en jardinerie sans résultat. Auriez-vous donc une solution efficace pour résoudre ce problème, vous demande Jeanne.
Ah non, ce problème, il est né d'une histoire d'amour. Papillon Carpocaps, un soir, parce que c'est un animal nocturne, rencontre une femelle. De cette union va naître des petits bébés, sauf que les bébés, ce sont des larves que l'on met dans le fruit. Alors comment faire? Il faut perturber cette activité sexuelle en mettant des pièges à phéromones. Ils sont un peu paumés et ils ne peuvent pas se reproduire.
Et
il n'y aura donc pas de bestioles.
Un dernier conseil pour le week-end.
J'ai vérifié, mais on ne sait jamais. Journée des plantes à Chantilly, c'est le grand rendez-vous annuel des amateurs de plantes. Donc c'est à Chantilly et c'est dans l'Oise.
Alain Baraton et sa main verte, à demain, Alain.
Avec joie.
Et toujours le masque sur le nez et la bouche.
Oui.